carnet de campagne. Bonjour, pour cette troisième journée en Loire-Atlantique, je vous communique une information fraîchement arrivée dans la messagerie des carnets. L'adresse d'ailleurs, c'est carnet au pluriel, hein, toujours carnet de campagne, @radiofrance.com, que l'on doit à Sylvie, membre d'un tiers-lieu original à Nantes, puisqu'il est dédié au bien-être. Il s'appelle Aura, O-R-A, et ce nouveau lieu du vivre au naturel vise à éduquer tous les publics à la prévention santé. Les salles du centre sont en partie destinées à des activités physiques douces, entre autres pour les personnes handicapées, empêchées ou malades. Les ateliers annexes seront réservés aux ateliers cuisine, aux formations zéro déchet, tandis que les visiteurs pourront profiter aussi de consultations de médecine alternative et complémentaire. Les valeurs de l'économie sociale et solidaire sont mises à l'honneur, on y insiste, dans ce centre Aura, à commencer par la solidarité. Le local vient d'ouvrir il y a quelques jours, c'est tout nouveau, sur l'île de Nantes, boulevard de la Prairie au Duc. Aura vers l'équilibre.fr pour l'adresse, et il y a également une page Facebook à communauté Aura. Invité de ce mercredi, Didier Toquet et Jules Infante, le premier président d'une société d'utilité sociale et solidaire très originale, Bateau, ça s'écrit B-A-T-H. Au accent circonflexe à Rezé, aux portes de Nantes. Le second est membre des Spationautes. Non surprenant si on ne sait pas que ce scénographe expérimente de nouvelles formes de théâtre dans l'espace public. Nous en saurons plus dans la seconde partie de ces carnets.
France Inter, carnet de campagne, Philippe Bertrand.
Didier Toquet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président de Bateau, qu'on écrit B-A-T-H-O. Accent circonflexe, entreprise spécialisée dans le réemploi et la valorisation des bateaux en fin de vie installés à Rezé, tout proche de Nantes. C'est l'arrivée du polyester qui a développé la construction navale, mais qui en même temps provoquait beaucoup de déchets.
Alors c'est effectivement, on appelle ça un stock historique, qui sont depuis les années 60 les bateaux construits en polyester. L'arrivée du polyester, elle a fait deux choses. Elle a d'abord complètement révolutionné la manière de construire des bateaux, mais elle a surtout permis la construction en série de bateaux et que tout à chacun puisse trouver un pêche-promenade, un bateau de croisière, etc. Et c'est l'ensemble de ces bateaux, finalement, aujourd'hui, qu'on retrouve abandonnés ou avec des propriétaires qui sont âgés aujourd'hui, qui n'ont pas les jeunes qui veulent les reprendre, et qu'on traite, en tout cas nous, sur notre chantier, pour prolonger leur durée de vie, avant que l'organisation de la destruction massive de ces bateaux soit faite par l'éco-organisme déchets de bateaux de plaisance et de sport, qui devrait normalement être opérationnel début 2019.
Et on les trouve où, ces bateaux, Didier ?
On les trouve pour un tiers chez les particuliers, un tiers dans les ports, et un tiers dans les chantiers de réparation ou les chantiers de gardiennage.
Les chiffres sont ahurissants. Plus de 100 000 bateaux de plaisance en fin de vie sont abandonnés actuellement.
Alors, on sait qu'on a un parc à peu près d'1 million de bateaux de plaisance et de sport en France. Et nous, on estime que c'est plutôt 400 000 tout bateaux confondus, c'est-à-dire des bateaux qui ont entre 2,50 m et 14 mètres de longueur.
Et alors, la destinée de ces bateaux est prévue à partir du 1er janvier par la gestion, par un éco-organisme qui va organiser leur destruction massive.
Et finale, alors cet éco-organisme, finalement, aujourd'hui, sur le principe de pollueur-payeur, l'État va demander à l'industrie nautique de prendre en charge la destruction finale de ces bateaux. L'industrie nautique freine un peu des pieds aujourd'hui, parce qu'un voilier de 8 mètres, par exemple, ça coûte entre 2 et 3 000 euros à détruire. Et l'exutoire de la destruction, il n'y en a que deux aujourd'hui qui sont proposés parce qu'on ne sait pas quoi faire des coques en polyester, c'est la décharge ou l'incinération en four de cimenterie. Donc des techniques coûteuses à fort impact sur l'environnement. Et c'est de là, nous, on a essayé d'imaginer une filière de réemploi de ces bateaux qui permettrait de prolonger leur durée de vie. Alors la première réflexion sur laquelle on est parti, c'est d'abord qu'un bateau, c'est des murs et un toit, c'est un abri sûr qui est fait pour vivre au milieu de l'Atlantique un jour de tempête. Tous ceux qui font du bateau le savent bien. Donc on est parti de ce principe pour essayer de comprendre quel autre type d'habitat on pourrait faire en retirant ces bateaux de l'eau. Et il y en a deux qu'on poursuit. Un premier qui est le tourisme durable. Il y a une très grosse croissance de ce tourisme d'itinérance douce, comme on l'appelle, éco-slow. C'est-à-dire que vous faites à pied, en canoë, à cheval ou en vélo. Et sur notre région, la Loire-Atlantique, le vrai patrimoine pour organiser cette forme de tourisme, ce sont le fleuve, les canaux, les zones humides des marais, du lac de Grandlieu ou les rivières. Donc on est parti de ce principe en disant finalement quoi de mieux que poser des petits bateaux au bord de l'eau. On les réhabilite complètement parce qu'on part de bateaux qui sont vraiment très abîmés, pour les poser au bord de l'eau, et ça c'est l'aspect tourisme durable. Mmh. On a une autre piste qu'on suit beaucoup aujourd'hui, qui est plus compliquée, mais c'est éventuellement l'hébergement d'urgence, par exemple.
Oui, si j'y pensais, effectivement.
Ben oui, parce que c'est vraiment l'idée d'un abri sûr, sans impact, sans construction, sans scellement au sol, on le pose sur des petits bercs qu'on a fabriqués, un petit peu comme les maquettes de bateaux.
Ouais, oui. Didier, vous ne redoutez pas d'éveiller l'intérêt de propriétaires d'épaves qui vont se dire « Oh là, on peut se faire de l'argent, on va revendre ça à l'entreprise bateau ».
Si, d'abord, les bateaux qu'on récupère, on les paye 1 euro, hein, en général. Donc, effectivement,
c'est clair.
Il y en a pour tout le monde. Hein. Il y en a, au moins, c'est clair. Nous, on fait quelque chose de beau, qui sera exploité par des gîtes, par des campings, par exemple. On a entre 250 et 300 heures de travail pour le refaire complètement. Mmh. Donc, c'est quand même un vrai gros boulot. Et puis, on pense que la région est le territoire le plus adéquat pour organiser ce genre de choses.
Bien sûr.
Donc, la région des Pays de la Loire en ce moment. Si après, d'autres régions veulent s'y mettre, mais qu'ils y aillent. On parlait des bateaux des années 60 à 80. Il y en a certains qui sont des bateaux de légende. Donc, il y a, je trouve, un aspect patrimonial à extraire de ce gisement qui va être incinéré ou mis en décharge, ces bateaux-là, pour permettre à tout à chacun de vivre une expérience. Je dis souvent que nos bateaux, on les fait pour tous ceux qui aiment les bateaux, mais aussi tous ceux qui n'aiment pas naviguer et qui finalement sont beaucoup plus nombreux que le reste. Mmh. Donc en leur offrant ce qu'on appelle, nous, une croisière immobile, ben finalement, on se rend compte que ça intéresse pas mal de gens sur cet aspect touristique.
Bien vu. Bateau.fr, bateau, je rappelle, B-A-T-H-O pour l'adresse internet, bateau 4444, comme la Loire Atlantique pour la page Facebook.
Ouais.
Merci Didier.
Ben, je vous en prie.
Carnet de campagne. Philippe Bertrand sur France Inter.
Cette saison, nous reprenons le principe des coups de pouce. Régulièrement, nous recevons vos courriers de recherche de local ou de terrain, parfois d'offres d'emploi, souvent des propositions d'installation en milieu rural ou en milieu périurbain. Aujourd'hui, c'est une ressourcerie, le Grand Détournement, qui est en quête d'un local dans le vignoble nantais. Nous sommes précisément dans le sud-ouest de la communauté d'agglomération de Clisson, Sèvres et Ménaglo. Les membres de la ressourcerie souhaitent s'installer, alors c'est encore plus précis, à Aigrefeuille-sur-Maine ou alors aux alentours de la commune, afin d'y ouvrir un local de vente couplé à un local de stockage. À défaut, les deux espaces pourraient être séparés, se partager entre plusieurs communes. On ne sait jamais si vous avez de quoi répondre à cette annonce. Le Grand Détournement compte une cinquantaine de membres. Il a pour but de collecter des objets et matériaux pouvant connaître une seconde vie, de les valoriser et de les vendre à prix abordable pour tous. Il prévoit également des animations au profit des enfants ainsi que des ateliers, des expositions, des débats. Et le souhait est également de partager l'émission avec les institutions, les artisans, les artistes et les associations du territoire. Vous trouverez les coordonnées du collectif sur sa page Facebook. C'est LGD comme le Grand Détournement 44, toujours le même département, ou alors legranddétournement.fr. Jules Infante, bonjour.
Bonjour.
Jules, vous avez créé avec Florentin l'association, oui, Les Spationautes et votre, ce que vous appelez le Bureau d'études spatiales.
Ouais, c'est ça.
Mais c'est pas pour décrocher la Lune.
Oh bah, c'est un petit peu aussi l'idée quand même, c'est de se fixer un bel objectif, quoi. Ouais.
Ah, c'est vrai que vous étiez dans les astres, vous êtes passé par le Théâtre du Soleil ?
Voilà, c'est ça, on a un peu fait nos armes là-bas, ouais.
Ouais, d'où le choix de Bureau d'études spatiales, alors ?
Ça, et puis un peu aussi de se dire comment on peut faire des choses un peu sérieuses tout en, voilà, en plaisantant et en faisant des recherches qui, nous paraissent intéressantes, mais qui ont peut-être moins de valeur pour d'autres.
Ouais. L'originalité, alors d'abord j'ai vu ce que vous êtes capable de faire en tant que scénographe et constructeur de décors de spectacle à Nantes. Tiens, ça m'étonne pas parce qu'à Nantes on invente beaucoup de choses folles et grandioses. Mais c'est, vous allez plus loin parce que vous ouvrez des chantiers participatifs et votre idée c'est de faire partager au plus grand nombre vos savoir-faire.
Voilà, c'est ça un peu l'idée. Nous on est constructeurs de métier, donc on a une formation technique de base qui nous permet de mener des chantiers pour d'autres compagnies ou des architectes. Et en fait, l'idée, c'est toujours un peu comment mettre notre savoir-faire en pratique pour apprendre aux autres et comment, à travers notre savoir-faire, on peut aussi créer des moments de partage, de lien social au travers de la pratique, de la construction. Quand on met les mains dans le cambouis, ça met un peu tout le monde d'accord. C'est un peu l'idée de développer ça.
Ouais. Alors c'est complètement fou et délirant, parce que ça peut être avec les enfants, comme on le voit, vous avez construit et conçu un triporteur avec des enfants, par exemple.
Ouais. Bah, comme on est de base en spectacle vivant, on cherche un peu une idée un peu loufoque qu'on propose aux gens, et après on va la mettre en réalisation. Et notamment, une expérience qui nous a le plus marqué, c'était avec l'association Au Fond de la Rue en Mayenne, où là, on avait des chantiers participatifs avec des jeunes et aussi un EHPAD, donc les seniors qui étaient avec nous. Et ça a pu permettre de faire des superbes échanges où il y avait les enfants de 10 ans qui étaient avec les papys de 70 ans qui faisaient de la soudure et de la meuleuse côte à côte.
Mmh. Vous inventez des outils de travail. Alors, il y a par exemple, c'est une caravane, enfin en tout cas la façade d'une caravane. Derrière, c'est aménageable, ça peut être un appartement, ça peut être un garage, ça peut être un atelier. Enfin, vous inventez sans cesse.
Oui, alors un peu des fois, un peu tête brûlée. Et c'est vrai que là, c'est un projet qu'on a développé qui tourne autour non pas de la construction, mais du cinéma. Et c'est plutôt comment bidouiller avec le cinéma pour faire du cinéma participatif avec les gens. Donc là, on a des professionnels avec nous qui sont des caméramans, des preneurs de son et des costumières. Et l'idée, voilà, c'est on met aux gens, on leur propose de venir tourner un film et d'inventer des scènes comme on pourrait proposer aux gens de venir construire des décors et d'inventer des machineries un peu loufoques.
Et c'est ce que vous appelez le kinoscope.
Voilà, c'est ça. C'est notre projet très astral.
Oui. Et alors, vous allez aussi du côté de l'atelier du pignon. Pourquoi êtes-vous intéressé par un atelier d'auto-réparation de vélo?
Eh ben, c'est toujours. On a un atelier, on a une passion aussi, on est tous dans l'association Féru de Vélo. Et est-ce qu'on pourrait amener les gens aussi à venir entrer là et par la petite porte d'entrée qui est la réparation de vélo, leur donner conscience qu'en fait c'est assez simple de s'autonomiser. C'est assez simple d'apprendre et au final, c'est un bon moyen de rencontrer d'autres personnes dans le quartier, de boire un coup et d'échanger autour du vélo. Quoi.
Constructeur, inventeur et animateur, il vous manque plus que d'avoir pignon sur rue et pour cela, de pouvoir trouver un local aménageable en plein centre de Nantes.
Alors ça, c'est un projet qui est en discussion avec la mairie de Nantes. L'idée, c'est d'investir un hangar qui est voué à la destruction, qui fait partie d'un plan d'aménagement de la mairie. Et en fait, on leur a proposé de l'investir le temps qu'ils aient le temps de faire tous les plans de construction, tout ça, pour réunir nos activités dedans et de faire cohabiter un atelier de production de décors professionnels avec l'atelier du pignon et aussi un studio de cinéma expérimental qui fait le lien avec notre projet Kinoscope.
Ouais. Alors, je remercie Christiane Dugard à Aigremont qui vous a dénoncé, même de façon accablante, et qui dit à la fin de son courrier, « Voilà, monsieur, en quelques mots, je ne veux pas non plus les accabler, ils sont jeunes, ils n'ont pas la trentaine. Ce que proposent ces deux activistes et leurs nombreux comparses. » J'ai beaucoup aimé la lettre, mais elle va vraiment dans l'esprit de ce que vous faites. Parce que c'est rayonnant et insolent, et c'est nouveau, et c'est vraiment bien. Spationaute.fr, et puis Bureau d'études spatiales pour la page Facebook. Merci Jules.
Ben merci à vous.
Jules et son cinéma, le festival de Deauville, mais un festival auquel vous allez peut-être échapper, ce serait dommage, je vous y invite, c'est à partir de vendredi, pendant toute la durée d'ailleurs du festival de Deauville, aux mêmes dates, du 31 août au 2 septembre, ça se passe à Flagy, c'est le premier festival du genre, il s'appelle Paradisio en référence au l'ancien cinéma, puisqu'on sera placé sous les années 1900-1950, c'est un voyage pendant 3 jours dans l'univers du 7e art, à travers des plateaux de tournage reconstitués, des projections à l'ancienne, des expositions, des animations. Il y a 4 lieux dans le village, il compte 650 habitants, ça va être un grand cinéma. 4 lieux de projection, tous équipés de projecteurs d'époque, qui vont diffuser toute la journée des films, des réclames, des dessins animés, des actualités. Bref, un voyage au temps de la pellicule sous toutes ses formes, l'entrée est libre et gratuite, et ça se passe donc à Flagy, en Seine-et-Marne, à partir de vendredi soir jusqu'à dimanche, en fin d'après-midi, pour ce premier festival Paradisio. Demain, en Loire-Atlantique, l'association Pas Bête la Fête, qui va organiser dans une dizaine de jours sa 8e fête de la vache nantaise. Et puis on parlera aussi de la coopérative Compost In Situ, qui promeut le compostage à grande échelle en périphérie de Nantes. Je rappelle, avant de rejoindre Nicolas Stoufflet, que nous prenons toujours des messages en provenance des de Sèvres, de la Vienne et de l'Isère.